franceinter.com.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Clochemerle. Il faut écrire l'histoire de France comme on compose un puzzle, avec chacune de nos petites patries, les villes, les petites villes, les villages. Ce qui n'est pas varié n'est pas vrai, disait Augustin Thierry. Et une bonne lampée de passé locale n'a jamais fait de mal à personne. Point trop n'en faut toutefois. Ainsi, la semaine passée est sortie Une guerre des boutons 1 dans 600 salles de cinéma. Ce mercredi, on attend Une guerre des boutons 2 sur autant d'écrans et on a échappé de peu à Une guerre des boutons 3. Qui plus est, ces films croient bon de se projeter hors de l'époque de rédaction du livre de Pergaud. La marche de l'histoire va donc remettre un peu d'ordre dans ces guerres de croquants et dans la chronologie et tenter une vaste fresque de la vie de clocher sous la Troisième République. Et pour cela, nous allons remettre au centre la petite ville qui mérite d'y être replacée. Clochemerle, 2800 habitants en 1922, son charcutier Lardon, son boulanger Farinard, son tonnelier Boîte à vin. Ah, le vin de Clochemerle, connu jusqu'en Angleterre.
If you leave Paris and drive south along the route nationale number 6 down the valley of the Saône, through the vineyards of Burgundy towards Lyon, you will find yourself in one of the most beautiful corners of France, the land of the Beaujolais, especially the village of Clochemerle.
Oui, c'est que Clochemerle a connu aussi des adaptations cinématographiques nombreuses, une en 47, une en 2004 et en Angleterre. En 1972, l'invité de la marche de l'histoire, Serge Berchtein, bonjour.
Bonjour.
Historien de la République, toujours recommencé, mais je vous invite aussi parce que vous êtes né l'année où est paru le livre de Gabriel Chevallier.
Tout à fait.
On dissimule la date ou on la donne ?
On peut la donner. On peut la donner. C'est n'est pas un secret d'État.
1934.
Voilà.
Et puis alors, vous êtes aussi maintenant scénariste.
Disons adjoint.
Et vous faites un film sur Clémenceau. Et ça nous projette dans la guerre de 14, dont on va dire un mot, parce que Clochemerle se déroule en 1922, peu après l'armistice. L'auteur Gabriel Chevallier a fait la guerre. L'auteur de la guerre des boutons est mort pendant la guerre, mais Gabriel Chevallier a fait la guerre, était engagé volontaire. Et il a publié un très beau livre sur la guerre qui s'appelle « La peur, engagé volontaire ». Il aimait son clocher, celui qui n'aime pas son clocher ne peut être un bon citoyen de la République.
Je pense que c'est assez vrai d'une certaine manière, dans la mesure où le clocher, le village, disons, la petite communauté villageoise, c'est quand même, pour beaucoup de Français de l'époque, l'élément concret, au fond, où s'enracine leur vie quotidienne, où se vivent les valeurs qu'ils ont apprises dans leur enfance, dans leur jeunesse. Et par conséquent, l'attachement à la patrie commence certainement par l'attachement à cette petite fraction de patrie qu'est le village, en tout cas dans ces années où, certes, il existe des chemins de fer, certes, il existe les autocars, mais où tout de même, le téléphone n'existe que dans quelques administrations ou chez quelques notables, où les voitures sont rares et où, par conséquent, sortir du village, c'est tout de même faire un saut vers un assez large inconnu.
Surtout quand on va au front. Alors, le front, c'est la découverte des autres.
C'est le grand risque et la grande aventure.
Et c'est la découverte de soi, ainsi que l'explique sans déguisement Gabriel Chevallier dans ce très beau texte que je citais, « La peur », paru peu avant Clochemerle. Un extrait est ici lu par Hugues Kester.
« La peur n'est pas honteuse. » Elle est la répulsion de notre corps. Je connais des hommes qui ont pu me croire brave naturellement, auxquels j'ai caché mon drame. Car notre souci, alors que notre corps était plaqué au sol comme une larve, que notre esprit en nous hurlait de détresse, était encore parfois d'affecter la bravoure. Ce qui nous a tant épuisés, c'est justement cette lutte de notre esprit discipliné contre notre chair en révolte, notre chair étalée et geignante qu'il fallait rosser pour la remettre debout. Le courage conscient, mademoiselle, commence à la peur.
Alors le retour ensuite n'est pas aisé. On voit un notaire dans Clochemerle qui jamais n'est allé au front et qui se plaint des conséquences sur le financement de l'État, des retraites trop importantes pour les mutilés.
Oui.
On ne comprend pas que quand on a deux membres coupés seulement, on ait une pension à 100%.
Certes, c'est effectivement scandaleux et ça pèse sur le budget de l'État. C'est tout à fait incontestable. Tout à fait incontestable. Bon, cette expérience de la guerre, c'est quand même une expérience cruciale pour beaucoup de Français qui n'avaient pas souvent franchi les limites de leur canton, pour faire simple, et qui tout à coup se trouvent plongés dans une expérience inouïe, totalement inattendue pour eux, qui est celle où, à chaque instant, à chaque minute, on risque sa vie, on peut disparaître, et où il faut par conséquent s'accrocher au sol, dans la boue des tranchées. Il faut rappeler que l'expérience des tranchées elle-même est traumatisante, et l'expérience de la guerre révèle cette immédiateté de la possibilité de la mort qui ne frappait pas, qui n'existait, dirais-je, que d'une manière abstraite pour la plupart des Français. Et donc, il y a là une expérience et qui va durer et marquer profondément la France pendant au moins deux générations.
Le monument aux morts rappelle mal ce qu'était cette douleur.
Le monument aux morts le rappelle dans un certain nombre de cas. Les études fort intéressantes faites par les historiens sur les monuments aux morts ont noté que ceux-ci avaient une signification différente. C'est-à-dire que beaucoup de monuments aux morts, bien entendu, rendent hommage aux disparus, à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie à la patrie. Mais en dehors de cela, on note la douleur des mères, on note pour un certain nombre d'entre eux la révolte devant cette chose ignominieuse qu'est la guerre, et par conséquent, on a au fond des monuments aux morts antimilitaristes et on a des monuments aux morts nationalistes qui embouchent la trompette de la victoire grâce au sacrifice de ceux qui sont tombés.
La République est combat constant, c'est ce qu'on retrouve quand on revient au pays. Après avoir publié « La peur » en 1931, Gabriel Chevallier publie en 1934 « Clochemerle ». Clochemerle, 2800 habitants en Beaujolais. On y a construit, comme ailleurs, un monument aux morts. Mais le maire, qui a à l'horizon les élections sénatoriales, Barthélémy Piéchu, s'entretient avec l'instituteur Taffardel d'un autre projet qui singulariserait la commune.
Taffardel, j'ai bien réfléchi. Il faut un projet ambitieux qui fédère les énergies. Vous allez me trouver ça, vous, monsieur l'instituteur.
Justement, monsieur le maire, j'ai tellement envie de voir graver liberté, égalité et fraternité sur le porche de notre cimetière. Mais si, il n'y a aucune raison d'abandonner nos morts à la réaction.
Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Mais je voudrais une idée davantage tournée vers l'avenir. De gauche, sociale, qui mette notre municipalité en valeur. Hein ? Qui lui donne du lustre.
Mais vous gênez pas ! Hein ? Prenez la place publique pour un urinoir !
Une pissotière !
Allez, où ?
Taffardel. Monsieur le maire ?
Pissotière.
Une pissotière, vous voulez dire une Vespasienne ? Publique ?
Voilà une très bonne idée, Taffardel. Mais oui, voilà un projet prophylactique qui met en évidence le souci qu'a la gauche de l'hygiène publique.
Construire un édicule, c'est l'adaptation de Clochemerle de 2004 avec Donadieu dans le rôle du maire, un film de Daniel Losset. Et c'est un projet de gauche. Alors, le mot « le parti » est employé d'ailleurs plutôt que le mot « de gauche » par Gabriel Chevallier dans Clochemerle.
Oui, parce que le parti, pour beaucoup de ces petits notables locaux, comme le maire ou l'instituteur d'ailleurs, c'est évidemment le parti radical. Le parti radical, c'est
à l'époque... Serge Berstadt est membre de la Société d'Histoire du Radicalisme.
Oui, tout à fait, et même membre fondateur, certes. Et ce parti... il faut bien voir ce qu'il a représenté, au fond, la République de gauche, comme dit notre maire, la République de gauche, dans un pays qui est quasi unanimement républicain, mais qui, avec le Parti radical, donne à la République un contenu extrêmement précis, qui est le contenu, d'une part, du réformisme social graduel. On n'est pas socialiste, on ne va pas tout de même s'attaquer à la propriété. Et puis également, un parti qui se veut laïque et l'adversaire dans beaucoup de villages, c'est souvent le curé. Ce sont les croyants qui entourent le curé qui apparaissent comme les adversaires politiques, la droite en quelque sorte.
Mais je vous questionne sur le radicalisme parce que il paraît un peu étrange aujourd'hui, même s'il survit. Mais il survit avec Borloo, qui est un converti de la 25e heure, ou alors avec Baillet, qui apparaît dans le débat télévisé des primaires socialistes, un petit peu comme le cousin de province qui vient en goguette à Paris.
Oui, j'ajouterais que non seulement les personnages que vous évoquez, mais au fond une grande partie du monde politique, qu'il soit de gauche ou de droite, qui est l'héritier, sans le dire bien entendu, du radicalisme. Lorsqu'on nous parle de solidarité sociale tous les jours, ou à peu près dans tous les partis, qu'est-ce que l'on évoque? Sinon, l'œuvre de Léon Bourgeois qui s'appelle Solidarité, la doctrine qui s'appelle le solidarisme, dont on a longtemps fait des gorges chaude, parce que c'était tout de même moins important que la collectivisation de la société française, mais à ma connaissance, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun gouvernement, aussi à gauche fut-il, n'a jamais dépassé le stade du solidarisme dans son action sociale.
Et quand on parle de classe moyenne, parce qu'on en parle beaucoup maintenant, le Parti radical, c'était un contrat de progrès pour les classes moyennes.
C'est un contrat de progrès pour les classes moyennes, c'est-à-dire un contrat de progrès pour une population qui a quitté les rangs de la paysannerie ou les rangs du prolétariat, qui a commencé à s'élever dans l'échelle sociale, qui veut continuer à s'élever dans l'échelle sociale, et c'est probablement cette promesse de gradualisme dans l'ascenseur social qui explique la longévité du radicalisme et le fait que le parti radical n'étant plus aujourd'hui que l'ombre de ce qu'il a été dans les décennies passées, eh bien, ces idées continuent à inspirer et la gauche et la droite, mais personne ne dit cela.
L'instituteur Taffardel, le conseiller du maire Piéchu, c'est lui qui tient la main des petits propriétaires qui montent l'échelle sociale. Après 30 ans d'un métier qui exige constamment l'affirmation, il n'était pas étonnant, dit Chevalier, que son nez fût un peu tordu à gauche.
Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est, davantage que l'adhésion à un programme politique que la plupart des gens connaissent mal. Il y a une sensibilité qui est celle, au fond, de la société de progrès, dont les radicaux disent que la Révolution française en a posé les bases, mais n'a pas eu le temps de les réaliser, et par conséquent, dont la réalisation est en quelque sorte à la charge des héritiers de la Révolution française, que sont les républicains en général, et les radicaux, bien sûr, en particulier.
Ça passe par des réalisations, j'emploie votre mot, Serge Verstein, quotidiennes, utiles. Revenons à la pissotière de Clochemerle. Donc, elle va être construite. Elle va être construite non loin de l'église. C'est un défi à la réaction. Et comme le Parti radical dispose dans le Beaujolais en 1922 de toutes les ressources, le sous-préfet doit assister à la cérémonie qui se déroule ainsi. Vous allez voir l'ardoise est si lisse, je cite toujours Chevalier, qu'on y va aisément de la braguette.
Les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Mais nos ancêtres auraient été fiers de voir que nous n'avons pas oublié leurs grandes leçons. Celle de nos soldats de Valmy, de nos grognards, de l'Empire, de nos poilus, de 14. C'est ainsi que, droit debout face à l'avenir, Clochemerle sait se montrer digne de la pureté, de la générosité et de la fraternité de notre République que nous avons l'honneur de voir représentée ici par notre député, M. Bourdillat.
Monsieur le député, monsieur le maire, en tant qu'adjoint à la voirie et à l'hygiène, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder personnellement à l'inauguration de notre Vespasien.
Faire ça.
À vous l'honneur, monsieur le député.
Bravo pour votre pissotière. Ça a l'air d'un truc idiot, mais vous avez eu le sens exact du détail qui va marquer les électeurs.
Merci, monsieur le député. Je crois que ça plaît, en effet.
C'est vrai. Et puis c'est de gauche, au moins. Comme tout ce qui est nouveau, d'ailleurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
Bien loin sur un coteau, il existe un petit village. Bien loin sur un coteau, il existe un petit hameau. Où les garçons vivent rangés, où les filles sont sages, où les garçons vivent rangés avec leurs fleurs d'oranger. La vieille Mélanie passe pour être un peu sorcière. La vieille Mélanie a vu le diable, à ce qu'on dit. La bonne du curé vendit la mèche de la fable. La bonne du curé vit le diable, déculotté. Elle s'écria d'un air joyeux, j'ai vu la queue du diable. Et si j'en crois mes pauvres yeux, ben, je crois même qu'il y en a deux. Et bon, et doux.
1934, c'est la date de cette chanson de Charles et Johnny, duo bien connu. C'est la date de parution de Clochemerle, de Gabriel Chevalier. C'est une date clé dans l'histoire de Serge Bernstein, qui est l'invité de la marche de l'histoire. Aujourd'hui, le diable est dans le buisson. Les femmes regardent ce qui se passe autour de la pissotière, parce que les hommes y montrent leur boutique. Je cite toujours Gabriel Chevalier. Et le parti de la réaction se dresse. Le parti de la réaction dans un village de la Troisième République.
Alors, dans un village de la Troisième République, se produit une dissociation entre ce qui existait au XIXe siècle, c'est-à-dire à l'époque de l'enclavement des communautés rurales, où chaque village constituait une entité assez largement solidaire à cause des travaux des champs, à cause de la convivialité. On se retrouvait le soir pour la veillée, on faisait des travaux en commun, et cette communauté villageoise était le plus souvent groupée autour de la paroisse et du curé, qui était un peu le berger de ce troupeau.
Et maintenant, et puis, dissociation, voire confrontation.
Il y a dissociation au cours de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle. D'un côté reste la paroisse, c'est-à-dire la communauté des chrétiens, de ceux qui vont à la messe, de ceux dont le curé est le guide spirituel et parfois temporel. Et puis, il y a la communauté villageoise qui est constituée d'habitants qui désormais ne se sentent plus solidaires, pas nécessairement ennemis, même s'il y a des affrontements, mais ne se sentent pas solidaires de la paroisse chrétienne, et par conséquent, qui vont suivre les nouveaux notables, en particulier ces hommes politiques radicaux, qui sont puissants, parce qu'il faut le rappeler tout de même, et on le voit à propos de cette inauguration, ce sont eux qui constituent au fond la base, qui permet à un député d'être élu, et qui sont en rapport avec, souvent, le préfet, qui n'ose pas trop les contrarier. Il faut rappeler que presque tous les ministres de l'Intérieur appartiennent au parti radical.
Merci de prendre au sérieux l'édicule de Clochemerle.
Il est certain.
D'ailleurs, le parti de la réaction dans le village le prend au sérieux, dit qu'il se passe des choses troublantes autour de cette pissotière, la baronne de Courtebiche, Justine la bigote, Giraudot le notaire, qui trouve que les infirmes de la guerre ont des pensions trop importantes, mène le combat et le curé finit par se prononcer en chaire pour la destruction de l'édicule. Et alors voilà que dans l'église se dresse un urinophile hostile à l'urinophobe qu'est le curé, et une bagarre se déclenche dans laquelle le Suisse, celui qui est assuré, qui doit assurer l'ordre pendant la messe, s'attaque à celui qui conteste le curé.
Silly uniform! Traitor to the Republic! That trained monkey!
Drunken pygmy!
What did he say?
Come outside, you fat coward!
Coward?
Shut up, you!
Nos auditeurs comprendront qu'on ait mis la version anglaise de 1962.
Oui, les injures en anglais sont beaucoup plus acceptables.
Tout de même, si notre habitude étant le traduire, qu'est-ce que vous avez entendu ?
Je pense qu'il y a quelque chose comme couille molle, par exemple.
Par exemple, oui, cocu, feignant.
Fusée, c'est ça.
Rabougri. La presse locale va ensuite donner des sons de cloche très différents dans le compte-rendu. Parce qu'il faut imaginer que dans la petite ville de la Troisième République, ça n'existe plus aujourd'hui, il y a des journaux concurrents violemment antagonistes.
Certainement. La presse, d'abord, il faut dire que c'est le principal moyen de communication, le média, qui est à la portée de tout le monde, à une époque où tout le monde n'a pas encore la radio. Il faut rappeler que c'est le moment où elle se répand. Bien sûr, la télévision n'existe pas, Internet encore moins. Et par conséquent, on lit la feuille locale, d'autant que la feuille locale ou cantonale, le plus souvent, donne des informations utiles sur les foires, les marchés, la nécrologie, où on voit disparaître des gens que l'on connaissait. Et par conséquent, ces feuilles contiennent une page qui, le plus souvent, reprend les unes des journaux parisiens de la même tendance, mais qui, à l'occasion, traite des événements locaux et sont en quelque sorte les guides politiques de chacun des camps qui s'affrontent.
Le traditionnel va donc dire que dans l'Église s'est produit l'odieux exploit d'un ivrogne soudoyé par une municipalité sectaire, pendant que le réveil vinicole du Beaujolais dit que s'est produite une révoltante agression. Un Suisse pris de boisson s'est jeté sauvagement sur un paisible citoyen. Alors, il ne faut pas compter, dit Chevalier, sur l'intelligence humaine quand les catastrophes s'enchaînent. On va bientôt voir la panique gagner le tranquille Clochemerle, d'autant que le curé voisin, celui de mon voisin justement, lance ses jeunes d'Action catholique contre les Clochemerlins et s'attaque en particulier au monument aux morts de Clochemerle.
Monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire, venez vite voir, venez voir, venez voir.
Qu'est-ce qu'il y a là ?
Vite, allez.
Là, regarde.
Regardez-moi ça.
Notre monument aux morts, mais c'est du rouge.
Ah oui, oui, c'est du rouge.
Et ça, il est bien rouge. Hein.
C'est les jeunes de mon voisin qui ont fait le coup. Là.
Tatave, mon voisin, c'est ça ?
Oh, les salauds.
Comment ils ont osé faire ça ?
Alors, on s'étonne aujourd'hui que dans les cités, il y ait des guerres de territoire où chacun défende son point d'honneur. C'était la même chose dans la guerre des boutons. Il y a les gamins de Valrance contre ceux de Longeverne. Ici, ce sont les Montvoisinets contre les Clochemerlins.
C'est ça. Et je dirais que ça fait partie de, des traditions à long terme, en particulier des villages français, où celui qui n'est pas né dans le village, qui n'y a pas passé toute sa vie, apparaît comme un étranger. Et quelle que soit la durée de son implantation dans le village concerné, il reste toujours un allogène vient là, mais qui n'a pas véritablement l'identité qui est celle du village. Alors bien sûr, l'insulte ici est très forte. Le monument aux morts, c'est en quelque sorte le centre d'un culte civique qui se distingue évidemment du culte religieux. Et par conséquent, le personnage qui, à l'intérieur de l'Église, a provoqué le scandale, opère en quelque sorte un blasphème. Et les gamins qui vont peindre en rouge le monument aux morts opèrent un blasphème au niveau du culte civique. Et il y a là de quoi entraîner des rivalités, des haines qui se transmettent de génération en génération entre villages voisins. C'est vrai qu'on n'est pas très loin de ce que nous connaissons au sein de nos banlieues du 21e siècle.
Enfin, Bruno frappa dans la croix, dit « Attendez, il n'y a pas de batte de baseball quand même dans les bagarres de l'époque de la guerre des boutons.
Il manquait de l'équipement moderne des groupes qui s'affrontent, hein, c'est vrai. Mais l'intention y est.
Mais un vrai radical qui prend au sérieux les conflits, comme vous, Serge Berstein, ne les déteste pas non plus, parce que s'il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de république. S'il n'y a pas de cléricalisme, il n'y a pas de laïcité.
Il faut des ennemis. Et par conséquent, l'ennemi, on le trouve où on peut. Ou bien à l'intérieur du village, dans les gens qui ne pensent pas comme vous, ou bien à l'extérieur du village, chez les voisins qui sont des étrangers, et par conséquent des ennemis en puissance. Et puis il y a ces contentieux qui s'accumule au fil des générations et dont on se rappelle et qu'on évoque comme on évoque en quelque sorte les exploits de ceux qui ont réussi à vaincre ou à répandre la confusion chez le voisin adversaire.
Quand vous dites « il faut des ennemis », vous dites ça sérieusement?
Comment? Je le dis avec un certain humour.
Ah, quand même, parce que je voulais vous mettre en opposition avec une dernière parole, qui sera une parole cléricale. Il s'agit du curé de Vaux en Beaujolais, qui relève aujourd'hui le nom de Clochemerle, interrogé par Alexandre Hérault, bien connu maintenant des auditeurs de France Inter.
L'esprit clocher, il vient de la peur. L'homme a peur des autres. Plus on est libre, plus on s'aime, moins on a peur.
Ces cloches-mères, là, que des histoires de vieux de plus de 50 ans, ça s'intéresse plus les jeunes.
Le pharmacien l'a dit à la bouchère,
et la bouchère
l'a dit au cantonnier.
Le cantonnier
l'a dit à monsieur le maire,
et monsieur le maire
l'a dit au charcutier.
Et le charcutier l'a dit au chef de gare,
le chef de gare l'a dit au père Camus.
Le père Camus l'a dit à la fanfare,
et c'est comme ça que tout le pays l'a su.
Et savez-vous comment s'appelait le curé de Vaux en Beaujolais? L'abbé Bourin, ça ne s'invente pas, me dit Jacques Cigale. Comment s'appelle le maire de Vaux aujourd'hui? Monsieur Philibert, ça ne s'invente pas. Le menuisier s'appelait Billebois, le charcutier s'appelait Lardon, le boulanger s'appelait Farinard. À l'époque de Clochemerle, il y a quand même un grand charme à cette histoire des villages, ce qui explique peut-être le succès attendu des films qu'on leur consacre. C'est pas par hasard que tant d'ecclésiastiques et tant d'instituteurs ont consacré, brique après brique, des monographies à tous les villages français. Il y a un très beau livre de François Clou là, qui vient de paraître sur
oui,
le sujet.
Oui, parce que au fond, la réalité nationale, ça reste la mosaïque constituée avec des tendances qui sont souvent d'ailleurs régionales par l'ensemble de ces petites villes, ces petits villages, et que lorsque l'on examine au niveau de ces communautés les problèmes que nous connaissons comme des problèmes nationaux, ils revêtent un aspect concret, un aspect quotidien, qui a plus de signification pour une très grande partie des citoyens d'aujourd'hui que des idées qui apparaissent souvent abstraites ou des formules qui restent des formules et dont on voit mal l'application concrète. Donc certes, Clochemerle, c'est satirique, c'est une vision excessive, caricaturale de la société française de l'époque. Sur le fond, ça n'est pas faux, ça peut s'écrire autrement, bien entendu, sans participer aux haines ou aux propositions des uns ou des autres, mais tout de même, il y a derrière cela cette réalité concrète qui est le fondement de la démocratie, à condition qu'on prenne en compte les vues de l'adversaire éventuel.
Si c'est comme ça, il n'y a plus moyen de faire l'égalité fraternité. Si on a qui paye d'autre part, c'est plus la République, c'est la royauté. Puis moi, les rois, je les guillotine.
L'égalité, c'est quand personne paye d'abord.
C'est pas vrai, c'est quand tout le monde paye pareil.
Et les pauvres, alors? Tu fais honte aux pauvres, le braque. C'est pas républicain, ça.
Ça, c'est un extrait de la version historique. Yves Robert, 1962, de la guerre des boutons, si vous patientez après la sortie du film numéro 1. C'était mercredi dernier, après la sortie du film numéro 2. C'est mercredi qui vient, le 12 octobre, version remasterisée de La guerre des boutons de Yves Robert, reproduite par Daniel Delorme, son épouse. Merci à vous, Serge Berstein. Vous avez chanté, vous l'historien de Sciences Po à Paris, les fantassins de l'histoire locale, les arpenteurs de l'imaginaire local. Demain, on parlera de la guerre du Rif. À la préparation, Frédéric Martin, Meryl Moneghetti, Martin Penet, Alexandre Hérault et Jacques Cigale à la réalisation, Pascal Baldassari, Cédric Lalanne à la technique.